Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Et notre invité aujourd'hui,
Laurent Mauduit, je suis journaliste, j'ai longtemps dirigé le service économique de Libération, ensuite celui du Monde, et puis pour une raison d'indépendance, parce que j'y étais censuré, j'ai quitté le Monde et j'ai participé à la fondation d'un site, d'un journal en ligne qui s'appelle Mediapart.fr.
Eh bien, moi, c'est pas du tout pour toutes ces belles prouesses que je vous invite, c'est que vous avez commis un article dans Marianne du 26 janvier au 1er février 2008 que tout le monde pourra retrouver en ligne, puisque maintenant Marianne met ses archives en ligne. C'était un article absolument remarquable, un vrai délice, un vrai quelque chose de dense.
Vous êtes indulgente.
Pas du tout. Et j'ai regardé la signature, et Laurent Mauduit. Donc je me suis dit que j'allais vous contacter, parce que vous dites des choses assez impressionnantes. De plus en plus, les grandes entreprises du CAC 40 sont détenues par des grands fonds d'investissement. Alors, chez nous, on aime bien les questions naïves, ça va être, qu'est-ce que c'est qu'un fonds d'investissement, par exemple ?
Écoutez, oui, ce sont des questions importantes parce que, vous savez, dans le débat politique ou politique économique, le plus souvent, on s'arrête aux questions d'impôts, aux questions de redistribution, et on s'intéresse assez peu aux mutations du capitalisme. Or, à mon sens, ce sont des questions majeures. Majeures parce que des modifications de ce capitalisme ou des règles du jeu qui le régissent, eh bien, ça induit plein de choses. Ça induit notre modèle social, ça induit aussi notre modèle sociétal, j'ai les questions d'éducation. Et voilà, et donc je trouve que il faut s'y attarder, pour une raison très profonde, c'est que notre capitalisme français a bougé, s'est transformé, à cause de ces fonds, et je vais y venir, beaucoup plus profondément que beaucoup d'autres. Un seul chiffre pour donner l'ordre de grandeur, le CAC 40, ce qu'on appelle le CAC 40, c'est-à-dire les 40 plus grands groupes industriels et financiers français, en 1985, étaient contrôlés par des investisseurs étrangers à hauteur seulement de 10% de leur capital en 1985, il y a 23 ans. Et or, maintenant, on est à combien ? On n'a pas les chiffres de 2007, hein, on a les derniers chiffres connus, c'est de fin 2006. Près de 47% du capital, les grandes firmes du CAC 40, sont contrôlées par des fonds. Et donc, cette question des fonds, ensuite on peut rentrer dans le détail, qui sont ces fonds, qui possèdent l'argent. Mais c'est un choc immense, immense pour le capitalisme français. Juste par comparaison, les mêmes firmes en Grande-Bretagne sont contrôlées seulement à 30%, au lieu de 47% en France, et aux États-Unis, 20%. Et donc, ça donne une indication, c'est qu'on est en France dans un complexe libéral. On s'est plus tardivement ouvert au marché, au libéralisme que d'autres pays, mais ensuite beaucoup plus profondément. On est dans une économie beaucoup plus instable, beaucoup plus ouverte au fond. Voilà. C'est pour ça que je trouve ces questions de qui détient le CAC 40, qui détient les grandes firmes françaises, est une question décisive. Donc la question de ces fonds, c'est pas seulement une question de technique financière. Derrière ça, il y a des enjeux sociaux et sociétaux qui sont très importants.
Mais justement, lesquels ? Parce que moi, à la limite, je me dirais que ce soit des étrangers ou des Français qui détiennent le CAC 40, je m'en fous complètement.
Eh ben, vous avez tort. Vous avez tort pour une raison. C'est qu'avant, dans le capitalisme d'avant dans lequel on était, hein, que par commodité on appelle le capitalisme rhénan, c'est en fait c'est le capitalisme qui était celui de l'Europe continentale d'après-guerre. Il y avait, en fonction des rapports de force sociaux, il y a une sorte de relation de force entre le capital et le travail, entre le capital et les salariés. Et le patron, c'était une sorte d'arbitre. Hein, et comment se passait la vie de l'entreprise ? Le patron arbitrait entre ses salariés, ses actionnaires, ses consommateurs, en jouant soit du niveau de son dividende, du niveau de ses prix de vente, ou du niveau de ses salaires. Et en fonction du rapport de force, le patron, c'est une espèce de Bonaparte au-dessus, arbitrait. Or, ce nouveau capitalisme, Les maîtres du jeu, ce sont les fonds, les grands fonds. Alors ensuite, on va rentrer peut-être dans la décomposition. Et qui sont ces fonds? Est-ce qu'ils sont de nature différente? Mais vous voyez bien l'évolution, c'est que d'un seul coup, on change de capitalisme. On passe dans ce que, dans le jargon financier, on appelle un capitalisme d'actionnaire, un capitalisme patrimonial. C'est plus un capitalisme qui tient compte des rapports de force multiples. Et donc, le PDG n'est plus une espèce de Bonaparte au-dessus de tout le monde. C'est le PDG, c'est le porte-parole des actionnaires, qui fait la politique des actionnaires. Et donc, du coup, regardez la logique de ce capitalisme-là. Les commandements de ce capitalisme. La règle du jeu, c'est ce qu'on a, shareholder value, la logique du profit pour l'actionnaire. Et quand on dit qu'en France, on s'est plus ouvert, y compris le capitalisme britannique, y compris le capitalisme américain, c'est que du coup, ces diktats s'expriment en France avec encore plus de force qu'ailleurs. Et donc, si le modèle social français a été en partie démantelé, si on était très loin dans la dérégulation sociale, c'est aussi parce que on est dans un capitalisme d'actionnaires beaucoup plus marqué que d'autres. Vous avez tort de dire je m'en fous. Je sais que votre remarque est une provocation, cette question. Et ce qui est plus grave, c'est que souvent les politiques à gauche et à droite, eux s'en foutent. Ils ne font pas attention à ces débats-là. Or, ce sont des débats décisifs.
Des souhaits des hommes, et on est toujours en compagnie de Laurent Mauduit, de Mediapart, en l'occurrence, désormais. Ben justement, un journaliste libre, mais trop libre, il ne répond pas à mes questions. Hein. ma première question, c'était quand même au départ, c'est quoi des fonds d'investissement?
C'est quoi ces fonds? En fait, il faut faire une typologie, parce qu'il y a plein de sortes de fonds. Il y a d'abord ce que l'on connaît, les grands fonds de pension, notamment les grands fonds de pension anglo-saxons. En clair, ce sont des grands fonds qui gèrent les sommes mises en réserve par les retraités. Alors, les plus connus, ce sont les fonds de pension californiens. Il y a ça. Il y a aussi des fonds, alors dans le jargon financier, on appelle ça de private equity, c'est un des fonds qui rachètent des entreprises non cotées. Il y a les hedge funds, des fonds plus rapaces, ceux hautement spéculatifs, qui font des allers-retours, qui rachètent, qui vendent. Il y a une nouvelle typologie, une nouvelle race de fonds dont on parle beaucoup là depuis peu de temps, qui sont les grands fonds souverains. Alors les fonds souverains, c'est quoi? Ce sont des fonds d'État. Alors les plus connus, ce sont soit les fonds chinois, le gouvernement chinois a un fonds souverain, c'est en fait les réserves de change chinoises qu'ils investissent en plein groupe. Il y a des grands fonds aussi à Singapour, et puis il y a surtout les grands fonds souverains des monarchies du Golfe. Et c'est une chose assez peu connue, sachez que le deuxième actionnaire de Vivendi, Universal, donc l'un des très grands groupes industriels français, est détenu par le fonds d'Abu Dhabi. Prenez Lagardère, l'autre immense conglomérat français. Le troisième actionnaire de Lagardère, c'est le fonds du Qatar. EADS, le groupe aéronautique, filiale dans lequel Lagardère est actionnaire, est aussi... a aussi un grand fonds souverain. Donc voilà, il y a une classification multiple. Alors, la singularité, c'est que ce sont d'abord des gens qui cherchent des plus-values, des très fortes plus-values, donc qui induisent des commandements de gestion assez particuliers. Et puis, il y a l'autre aspect, dans le cas des fonds souverains, ce sont des fonds très opaques. Le capitalisme anglo-saxon induit beaucoup de transparence, mais malgré tout, il tolère. Or, la singularité qui est lié à la crise financière qu'on traverse là depuis un an, c'est que du coup, ces grands fonds souverains, comme beaucoup de grands groupes se sont effondrés, notamment des groupes bancaires américains, d'un seul coup, ce sont devenus les actionnaires importants de référence. Toutes les grandes banques américaines, maintenant, ont quasiment toutes des fonds souverains, notamment... des monarchies du Golfe qui sont rentrées dans leur actionnaire, c'est le cas de Citigroup, c'est le cas aussi de la banque suisse UBS, mais donc d'un seul coup ils se sont devenus des acteurs mondiaux, des acteurs majeurs de la finance mondiale.
Et en France, on n'a pas de fonds d'investissement? Et pourquoi à ce moment-là?
Et si, on a aussi, c'est d'ailleurs la preuve de cette transformation radicale du capitalisme français, il y a aussi des groupes français qui se sont transmutés Hein, c'est prenez par exemple, vous savez, dans l'histoire du capitalisme français, il y a des grandes dynasties industrielles, et il y en a une en particulier qui est Wendel, les maîtres de forge. Hein, c'est un groupe créé au début du XVIIIe siècle. Or, Wendel, dont on connaît le dernier porte-parole, c'était Ernest-Antoine Stellière, qui était l'ancien président du MEDEF, du patronat français. Eh bien, le groupe Wendel, qui s'appelle Wendel Investissement, s'est transmuté. C'est le paradoxe. On a souvent pensé que le patron des patrons, c'était un industriel. C'est pour ça que c'était le porte-voix du patronat français. Ben, pas du tout. C'est un groupe d'investissement dont la logique de fonctionnement, c'est de rentrer dans les entreprises, d'essayer, comme disent certains banquiers, de secouer l'entreprise en clair, de couper les branches les moins rentables pour faire monter le cours de bourse et sortir. Et donc, regardez l'investissement qu'ils ont fait dans Editis, donc un grand pôle d'édition française. Ça a ému beaucoup de gens à l'époque. Hein. Il y a eu un débat sur « mais que fait Wendel dans Editis ?» Ben, je vous le dis, ce qu'ils ont fait, c'est faire monter la valeur de l'entreprise et sortir 3 ans ou 4 ans. Ils vont sortir bientôt. Ils sont en train de négocier la cession d'Editis. Et l'actualité, ils l'ont à nouveau défrayé dans l'histoire Saint-Gobain. Vous avez peut-être remarqué que Wendel Investissement, le fonds, est rentré très brutalement à l'automne dernier au sein du capital de Saint-Gobain, l'une des très vieilles firmes française aussi, puisqu'elle est tricentenaire. Et la logique, c'est quoi? La logique était la même. Alors là, ils n'y sont pas tout à fait parvenus, mais c'est de faire monter le cours de bourse par des mesures. Hein, on rationalise, on coupe les branches les moins rentables, prendre sa plus-value et sortir. Donc ce sont des phénomènes très déstabilisants. Et donc on a nous-mêmes tellement importé le virus anglo-saxon, c'est que ben on a aussi quelques groupes, style Wendel, style PAI, qui est une filiale de BNP Paribas, voilà, qui font ce type de capitalisme beaucoup plus dur, beaucoup plus sauvage, beaucoup plus déstabilisant, beaucoup plus, c'est une logique de financiarisation de l'économie, hein. Il n'y a plus de logique industrielle, le temps industriel est un temps long pour construire. Là, c'est une logique pure, ce sont des coquilles financières. Hein. Et donc il y a un aspect assez un capitalisme très financiarisé et dans lequel ce qui compte c'est le ce que je vous disais, la shareholder value, le profit pour l'actionnaire, le profit là pour ces fonds là échéance de 4 ou 5 ans.
Mais c'est peut-être bien parce que ça peut peut-être donner plus d'efficacité aux entreprises.
Écoutez, moi je trouve qu'on rentre dans un capitalisme qui est très très inquiétant. Alors je ne vais pas faire l'éloge du capitalisme précédent, celui que je qualifiais de capitalisme rénan, mais c'est vrai qu'un capitalisme dans lequel on trouve des formes d'équilibre entre le capital et le travail est un capitalisme dans lequel il y a aussi une démocratie sociale où ceci se fait sur la règle du rapport de force. Hein. Comme disait autrefois l'ancien leader de force ouvrière, c'est un capitalisme qui permettait qu'il y ait du grain à moudre. Donc il pouvait y avoir des politiques contractuelles. Là, on est dans une logique très de défense de l'actionnaire. Les PDG sont les représentants exclusifs des actionnaires. Et donc c'est un capitalisme que je trouve très dangereux pour cette raison-là, c'est que il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de place à une politique contractuelle, il n'y a plus d'interlocuteur social. Hein. C'est le social est une variable d'ajustement. Et donc je trouve que c'est un capitalisme préoccupant, inquiétant.
Des sous et des hommes, et on tenait toujours en compagnie de Laurent Mauduit de Mediapart. Il y a un petit quelque chose que j'ai pas compris, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, en 1985, le CAC 40 était détenu à 10% par des fonds étrangers, et maintenant c'est 46,2%, du moins en 2006. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Comment ça se fait que subitement ça a cru autant?
Bah, et pour une raison qui est intéressante à observer, c'est que donc à partir de 85, mais surtout 86, hein, l'alternance, l'arrivée de l'équipe Jacques Chirac et Édouard Balladur, commence la grande vague des privatisations. Or, il y a un aspect donc c'est un grand choc, hein, privatisation qui ensuite dure 86-88, elle s'interrompt un petit peu pendant la période 88-93, et ensuite elle reprennent beaucoup par la droite en 93-95, et poursuivie et amplifiée, accélérée par Jospin après 97. Or, il y a une chose que je trouve très frappante, et il faut bien l'observer, c'est que, conduisant les privatisations, la droite d'abord toute seule, et ensuite la droite et la gauche, ne se posent jamais la question à qui vont profiter les privatisations. On privatise par dogme, par principe, hein, en se disant qu'il y a une mode. Mais du coup, observez bien, c'est que les entreprises sont privatisées. Pendant un temps, qui possède les entreprises privatisées ? Dans un système assez français, c'est une sorte, ce que j'appelle par commodité, le capitalisme de la barbichette. Je te tiens, tu me tiens. Les grands groupes français ont fait un système de participation croisée, une sorte de réseau, de maillage qui faisait que les grands groupes s'auto-tenaient mutuellement. Avec un système qu'on appelait à l'époque, en 86, les noyaux durs. C'est-à-dire que Balladur, c'était l'une des grandes polémiques de l'époque, a nommé quelques-uns de ses amis, de proches du pouvoir, qui tenaient les groupes financiers. Et ensuite, ce système, ces noyaux durs ont explosé. Les participations croisées se sont dénouées. Et donc ensuite, c'est devenu des entreprises sur le marché. Et c'est le marché qui a tranché.
Alors, juste une petite question. Qu'est-ce que c'était l'intérêt des noyaux durs ?
Un noyau dur, c'était une sorte de maillage très politique des systèmes industriels. C'était des amis du pouvoir qui tenaient les grands groupes industriels et financiers. C'était ça.
Et qui permettait de faire perdurer une politique industrielle ou même...
Non. C'était juste que ça, la logique, parce que la question s'est posée à l'époque. Mais attendez, si vous privatisez, qui va contrôler ? Ce sera peut-être des fonds étrangers. Et donc, la garantie apportée à l'époque par le gouvernement, c'est non, regardez, il y a des noyaux durs, il y a un système qui a été mis en place de sorte que les groupes ne partent pas. À l'aventure. La seule chose, c'est que, un, il y a eu une première polémique sur, en fait, ce sont des proches du pouvoir, donc il y a eu une polémique sur une sorte de capitalisme de connivence qui s'est instauré, mais ce capitalisme de connivence a en partie explosé, parce que les noyaux durs ont explosé, parce que le marché a été plus fort, et du coup, il s'est passé une chose que personne n'a prévue, et qui est pourtant majeure, c'est que, comme on était en France dans un capitalisme sans capitaux, eh bien, d'un seul coup, ce sont les fonds qui progressivement ont racheté. À droite, il y a eu un débat longtemps après en se disant mais on a été aveugle parce qu'on a fait un capitalisme sans les financements pour investir. En l'occurrence, la droite n'a pas osé à l'époque créer ses propres fonds de pension parce que on était nous dans un système de protection sociale par répartition, c'est de solidarité entre les générations, et non pas d'assurance privée avec des grands fonds. Et donc, du coup, ce sont les fonds étrangers qui en ont profité. Et donc, la droite, dans sa logique à elle, a été une droite aveugle. Elle a fait des privatisations, mais les yeux fermés, sans comprendre que, du coup, elle offrait les groupes français à des fonds étrangers dont la logique était purement une logique de plus-value rapide. Et donc, la mutation que la droite a engagée est une mutation à l'aveugle. Elle n'a pas, je dirais pas que c'était la droite la plus bête du monde, mais il n'y a pas eu de vision, de perspective. Qu'est-ce qui va se passer, voilà. Donc, pour le passé, je me dis que, comme souvent, on a secoué l'économie française. On l'a fait subir un choc terrible sans aucune perspective de long terme. On n'a pas réfléchi à cela. Et donc, je pense que les privatisations, le bilan des privatisations, de ce point de vue-là, est un bilan terrible. Et la preuve, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, le capitalisme français est totalement atypique par rapport aux autres grands pays du monde. Beaucoup moins ouvert, Donc, et je me dis que c'est aussi des bilans et de la gauche et de la droite qui ont vécu sous une forme de complexe libéral. Pensez donc, regardez même sur les privatisations les plus récentes, qui lance les privatisations ? Des autoroutes. C'est Laurent Fabius en février 2002, juste avant l'élection présidentielle, alors qu'il y a encore des grands débats. Et regardez les privatisations qui viennent, on les devine. Regardez la politique industrielle qui est induite pour la SNCF, ou pour la Poste, mais surtout pour la SNCF. On sent bien que, ça y est, la SNCF va... Il y a un débat public collectif sur ce cheminement-là, il n'y en a pas. Et je me dis que c'est très dommage, quand on est instruit du bilan du passé, il faudrait mieux faire un temps d'arrêt pour savoir si c'est nécessaire.
Mais est-ce qu'il y a une possibilité maintenant d'inverser la vapeur, si on peut dire ? Ça semble un peu difficile, non ?
Écoutez, en tout cas, ce qui est dommage, c'est que ces débats sur comment réguler le capitalisme, comment faire qu'il soit moins financiarisé, faire en sorte que la question sociale soit plus prise en compte, ces débats-là affleurent assez rarement dans le débat politique. Or, évidemment, il y a des moyens. Selon que l'on est de gauche ou de droite, il y a toute une série... Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup de dégâts commis. Une fois qu'on a à ce point ouvert le capitalisme français, c'est dur de faire marche arrière, malgré tout. tout. Arrêtons-nous sur quelques leviers. Vu du côté de la droite, la question des fonds de pension n'a toujours jamais été réglée. Or que l'enracinement, dans leur logique à eux, à droite, peut-être le justifierait. Il y a une autre forme possible, on accepte en France l'arrivée, l'irruption dans le capital des grands groupes français, des fonds souverains dont on parlait tout à l'heure. Mais on est pétrifiés, nous, en se disant, mais surtout, nous, avec les instruments de régulation de l'État, n'intervenons pas. Or, nous avons, nous, un fonds souverain. Personne ne l'appelle comme ça. Mais la Caisse des dépôts et consignations, qui est le plus gros investisseur de la place de Paris. Vous savez comment il fonctionne? Ben, c'est simple, il a des participations dans tous les groupes, et pendant des années, à cause d'une affaire qui était intervenue à la fin, sous Mitterrand, hein, où la Caisse des dépôts avait été soupçonnée, et même été intervenue violemment dans une affaire, du coup, on a été pétrifié. Il ne faut plus que la Caisse des dépôts intervienne. Et il y a une affaire récente qui est le scandale, la présomption de délit d'initié dans EADS, où la Caisse des dépôts a fait du portage de titres pour le compte de Lagardère, qui va renforcer cette sorte d'inhibition qui est terrible. Surtout, il ne faut pas que la Caisse des dépôts... Alors, ça ne règle pas le problème, mais c'est vrai que la Caisse des dépôts, elle a 4, 5, 6, parfois 10% des entreprises des grands groupes du CAC 40. Donc, c'est peut-être un facteur de stabilité. Ça ne règle pas la question. Ça permet en tout cas d'avoir, par rapport à certains fonds rapaces qui font des allers-retours, un phénomène de stabilité. Dernière remarque, là j'ai parlé des groupes du CAC 40, n'oubliez pas, premier semestre 2007, il y a 800 entreprises de taille moyenne, hein, en dehors de celles du CAC 40, qui sont rachetées par des fonds. Donc c'est un phénomène pas seulement parisien, les grands groupes, phénomène massif. Et là encore, la Caisse des dépôts pourrait être un phénomène de stabilité. Puis il y a d'autres pistes, on n'a peut-être pas le temps de les explorer, mais en tout cas, si on se posait la question, ne faudrait-il pas au moins un système un peu plus régulé, un peu plus stable? Ben déjà, le débat serait vertueux.
Et oui, donc c'était Des sous et des hommes en compagnie de Laurent Mauduit. Alors, je vous redonne les références de l'article qui était, je le répète, absolument remarquable. C'était un article de Marianne qu'on doit trouver dans les archives, qui sont maintenant accessibles. Un article du numéro de Marianne qui a été publié entre le 26 janvier et le 1er février 2008. Autrement, vous pouvez retrouver la prose de Laurent Mauduit, bientôt dans Marianne, si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Et surtout, sur Mediapart, que je vous encourage à aller visiter. Et bien pour nous, la semaine prochaine, nous recevrons Aurélie, à qui j'ai demandé si je faisais vraiment bien les choses en fermant mon robinet d'eau quand je me brossais les dents, si c'était vraiment la solution pour éviter toutes les horreurs écologiques qu'on nous dit bientôt devoir bientôt arriver. Et puis, un petit peu plus tard, dans les semaines à venir, on écoutera Tony Andréani autour du capitalisme, du socialisme. Ça sera une série d'émissions que vous pourrez retrouver sur le site www.dessousetdeshommes.org avec un tiret entre chaque mot. Voilà, à la semaine prochaine.